Fidèles auditeurs, c'est parti pour la deuxième tranche d'Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la reprise des cours. À quand la reprise des cours dans les écoles primaires et secondaires de la République démocratique du Congo? On en parle tout à l'heure dans cette émission. La reprise était prévue aujourd'hui, le 8 février, mais après, ce n'est plus. On a appris que ce n'est plus le cas. Alors, quand est-ce que les enfants vont retourner à l'école? Eh bien, c'est là que nous allons parler dans cette émission. Des questions et préoccupations. Le standard est ouvert, composé de 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Excellente condition d'écoute de l'émission Okapi Service.
Voilà Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme. Vous apportez l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Bienvenue encore une fois dans ce magazine de la vie au quotidien au Okapi Service. Pas de reprise des cours dans les écoles primaires et secondaires ce lundi 8 février, selon un communiqué publié la semaine dernière par le ministère de l'EPST. Toutes les propositions sur une éventuelle reprise des cours sont examinées au niveau du gouvernement et du comité multisectoriel des luttes contre Covid-19. Selon le ministère, cependant, la société civile et l'UNICEF plaident pour la reprise. L'UNICEF plaide pour la reprise des classes car l'interruption, l'arrêt des enseignements cause beaucoup plus de problèmes parmi les élèves. Nous allons en savoir plus avec nos invités. Nous commençons avec Jean Bosco Puna. Il est secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Jean Bosco Puna, bonjour.
Oui, bonjour.
Bien, là, nous savons que la reprise des cours prévue aujourd'hui est reportée à une date ultérieure. Il n'y a pas encore des précisions par rapport à cela. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui bloque la reprise des cours telle que vous l'avez souhaité?
Bon, il faut dire que la reprise des cours est reportée sine die, donc personne ne sait exactement à quelle date les élèves vont devoir recommencer les enseignements, ce qui est un véritable dommage pour le système éducatif congolais. Il faut également dire que la République démocratique du Congo, notre système d'enseignement, traverse une véritable crise, traverse un moment très difficile, parce que l'éducation fait partie des droits fondamentaux de l'homme, nous tous nous le savons, et de même pour la santé. La santé également fait partie des droits fondamentaux, mais ce sont des droits interdépendants. Et donc, à notre niveau, nous ne pouvons pas comprendre que l'éducation soit sacrifiée au profit de la santé que nous sommes en train de tenter préserver. Donc, au niveau du SINECAT, nous disons que personne ne peut priver notre jeunesse de la jouissance de ses droits. Donc, aujourd'hui, en principe, d'après les propositions du ministère, on devrait relancer les enseignements. Mais rien n'est fait. Alors là où nous ne comprenons pas en tant que syndicat, nous ne pouvons pas comprendre que le comité multisectoriel à la riposte, qui a neutralisé l'école, ne puisse pas être capable de faire des projections. Partout où les écoles ont été fermées, eh bien lorsqu'on ferme, on prévoit également les dates probables de reprise des enseignements. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que c'est un véritable drame que la jeunesse congolaise est en train de traverser. Il faut absolument qu'on... Mais de l'autre côté, lorsque nous poussons les raisonnements, nous nous rendons effectivement compte que ce soit l'équipe à la riposte, multisectorielle à la riposte, que ce soit les ministères de l'enseignement ou encore le gouvernement dans son ensemble, il n'y a pas une certaine coordination. Parce que comme vous le savez, le ministère de l'EPST a perdu toute sa crédibilité Il est difficile aujourd'hui que ces ministres puissent réussir à pouvoir remettre les élèves à l'école, simplement parce qu'au niveau du gouvernement, je crois qu'il y a d'autres dispositions qui sont en train d'être envisagées pour que finalement la rentrée puisse se faire effectivement. C'est comme ça que nous comprenons les choses au niveau du Sénécat. Mais par ailleurs, il faut également comprendre que nous sommes en train de franchir, nous sommes en train de parcourir les dates probables qui peuvent nous amener à une année blanche. Parce qu'il ne faut pas oublier que si nous atteignons, nous l'avions dit, la date cette semaine, si nous dépassons cette semaine, eh bien nous aurons franchi les 60 jours qui ne peuvent plus nous permettre de continuer cette année. Donc voilà un peu la situation, comment elle se présente.
Oui.
Nous avons passé un mois.
Jean Bosco Pouna, d'après vous, donc, il faut absolument reprendre au mois de février.
Mais il faut absolument sauver l'année au courant de ce mois de février. Parce que la rentrée était prévue pour le 5 janvier. C'était la date de la reprise des activités. Rien n'a été fait. Si nous prenons aujourd'hui 8 février, donc nous avons dépassé un mois. Or, dans les calendriers scolaires que nous avons prévoient les enseignements du 12 octobre 2020 au vendredi 23 juillet 2021. Et donc déjà là, nous sommes en train de franchir les dates fatidiques de l'année blanche. Je ne sais pas comment le gouvernement va devoir s'y prendre. Donc, il faut absolument que le gouvernement, les comités multisectoriels à la riposte puissent suivre la voie, les rappels de l'UNICEF donné le 14 janvier. Il faut absolument que toutes les forces se mettent ensemble, tous les partenaires se mettent ensemble pour que nous puissions remettre les enfants à l'école, parce que les conséquences à court et à long terme seront vraiment très fâcheuses.
Oui, Jean Bosco, peut-être que le comité multisectoriel ne veut pas exposer les enfants. Il y a un impératif sanitaire.
Oui, mais évidemment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... vous savez que la Déclaration universelle des droits de l'homme revient sur la question, et même la Convention relative aux droits de l'enfant qui protège l'enfant. Il est clairement dit que toute personne a droit à l'éducation et l'État a l'obligation de prendre des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. Donc il faut absolument que le gouvernement sache que la régularité de la fréquentation scolaire lui incombe. Et donc aujourd'hui c'est vrai que la pandémie est là, mais regardez autour de nous, beaucoup de pays voient leurs écoles, ont laissé leurs écoles fonctionner en mettant en place des mesures de santé préventive, des mesures de sécurité sanitaire. Nous ne voyons pas assez d'efforts de ce côté-là, qu'il s'agisse au niveau du comité multisectoriel de la riposte ou encore au niveau du gouvernement. Combien de temps nos enfants vont-ils rester comme ça? Parce que déjà l'année passée, nous tous nous avons vu qu'il y avait des arrangements antipédagogiques pour faire passer les élèves d'une classe inférieure à une classe supérieure, mais il ne faudrait pas que ça continue. Donc pour le Sénécat et pour l'ensemble de notre coalition, au niveau de la coalition DESC, eh bien nous militons en faveur de la reprise des enseignements pour épargner les enfants congolais de la dérive, de l'abrutissement plus ou moins programmé.
Voilà. Alors comment, par exemple, s'il faut autoriser la reprise des cours, quelles sont ces mesures de sécurité qu'il faut renforcer, mettre en place pour que les enfants soient suffisamment protégés contre cette deuxième vague de Covid-19?
Bien, la deuxième vague de Covid-2019, oui, c'est vrai que quelque part nous avons suivi l'un des docteurs nous dire que non, la maladie est là, il faut vivre avec la maladie. Nous pensons qu'à notre niveau... ça doit être ça le leitmotiv. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est très difficile de continuer à garder les enfants à la maison parce que les conséquences seront plus dramatiques que la Covid, en tout cas à notre point de vue. Quelles sont les mesures qu'il faut envisager? Je crois que le comité multisectoriel est mieux placé pour nous donner des vraies réponses. Les mesures simples, c'est celles qui sont bien connues. Il faut ériger les dispositifs lavage-main dans les écoles, il faut disponibiliser de l'eau dans beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'eau Mais il faut également que
les parents,
que nous tous, nous puissions avoir vraiment ce courage-là de pouvoir procurer les cache-nez à nos élèves. Nous pensons qu'il faut, apprêter les mesures que nous tous nous connaissons pour que les écoles reprennent le plus rapidement possible afin de pouvoir sauver cette année.
Bien, on va accueillir Serge Bondedi. Il est le coordonnateur de la campagne Ecoleza Mombongote. Serge Bondedi, bonjour. Serge Bondedi, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, je suis en ligne, je vous écoute parfaitement.
Bienvenue dans cette émission. Alors, la reprise des cours, ce n'est plus pour aujourd'hui, le 8 février, la date n'est pas encore connue. Alors, d'après vous, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence sur le plan éducatif?
Oui, les conséquences sont néfastes. Les conséquences sont néfastes, vous savez, les calendriers, j'aime toujours le dire, et c'est ça même la vérité véridique, est d'ordre contraignant, c'est-à-dire que ce qui est prévu doit se donner au moment fixé et dans le temps convenu. Et depuis la suspension qui est intervenue le 18 jusqu'à aujourd'hui, les conséquences sont extrêmement dramatiques parce que les enfants ne se rendent pas aux écoles et sans se rendre à l'école, une grande partie des enfants donc ne suivent pas des leçons, donc cela renforce ce que au niveau des Nations Unies on dit ça renforce le conflit générationnel qui dont les conséquences seront palpables dans les années à venir parce que les enfants ne bénéficient pas de leur droit d'accès à l'éducation.
Bien, donc il y a vraiment des conséquences sur leur éducation. On va accueillir Monsieur Arpana Pandai, il est manager, il est chargé de l'éducation à l'UNICEF. Monsieur Arpana, bonjour. Madame
bonjour.
Arpana, pardon.
Oui, bonjour et merci de m'accueillir à l'émission ce matin.
Bien, bienvenue Madame Arpana dans cette émission. Alors dites-nous, le fait que les enfants soient à la maison depuis le mois de décembre, quelle incidence cela a sur leur bien-être?
Oui, mais bien sûr, comme le collègue a indiqué, il y a un impact sur l'apprentissage, mais aussi l'impact sur la santé mentale. Les écoles fournissent un espace protecteur et les écoles permettent les enfants d'aussi avoir une routine. Donc, la fermeture prolongée des écoles va bien sûr avoir un impact sur la santé mentale des enfants et aussi ça peut aussi exposer les enfants aux risques différents, les risques de protection différents.
Oui, et quels sont ces risques?
Ça peut être bon le mariage précoce dans certains pays dans l'ouest d'Afrique quand les écoles ont été fermées pendant la pandémie, le Ebola. Il y a eu un impact sur les jeunes, les adolescents, filles, en termes de mariage précoce, les grossesses précoces. Donc, ça peut aussi avoir un impact ici.
Voilà, ça peut avoir un impact. Donc, nous avons les mariages précoces. Quels sont les autres problèmes qui peuvent survenir?
Ça peut être aussi... il y a des choses différentes, telles que... plus des enfants peuvent être commencés de travailler, les enfants peuvent être recrutés dans les groupes armés. Donc il y a plein de différents impacts parce que si les écoles n'ont pas une routine, quelque chose quotidien à suivre, ils sont plus exposés aux risques différents.
Et certains parlent même des risques d'être exposés aux violences sexuelles.
Oui, ça, parce que avec les confinements, le mesure de confinement et d'être confiné dans une maison, une espace, ça peut aussi augmenter, oui.
Alors, quel est le point de vue de l'UNICEF par rapport à la non-reprise des cours? Qu'est-ce que l'UNICEF préconise en ce moment?
Bon, pour l'UNICEF, la fermeture des écoles doit uniquement constituer une mesure de dernier recours. Donc après que toutes les autres possibilités ont été envisagées, finalement, en fait, c'est la décision du gouvernement. L'UNICEF, nous sommes ici pour appuyer le gouvernement de la RDC pour assurer le droit à l'éducation de chaque enfant, et nous avons fait le plaidoyer auprès du gouvernement pour la réouverture des écoles.
Bien, une enquête a été, un sondage a été réalisé par l'UNICEF avec le U-Report par rapport à la fermeture des écoles. Alors, pouvez-vous rappeler les résultats de ces sondages? Que pensent les jeunes eux-mêmes par rapport à cela?
Oui, en fait, le sondage de la semaine dernière a porté sur l'impact de la fermeture des écoles. Et un certain nombre de questions ont été posées aux enfants et jeunes adolescents. Et en termes des résultats, il y avait 73% des enfants qui ont indiqué que la fermeture des écoles a un impact sur eux. Il y avait aussi la question sur quel est l'impact principal de la fermeture des écoles. Et en fait, 68% des enfants ont indiqué le retard d'apprentissage, suivi par 10% ont indiqué l'impact sur la santé mentale. Et finalement, en termes de la solution proposée, il y avait une question par rapport à quelle est la solution que les enfants voulaient voir. Et en fait, 69% des enfants ont dit qu'ils voulaient que les écoles réouvrent.
Voilà, les enfants souhaitent que les écoles puissent réouvrir leurs portes. Merci beaucoup, Madame Arpana Pandey.
Merci beaucoup.
Vous êtes chargée de l'éducation à l'UNICEF. Excellente journée.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Bien, à quand la reprise des cours dans les écoles primaires et secondaires de la RDC? Jean Bosco Pouna est secrétaire général du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Jean Bosco, vous avez dit qu'il faut absolument reprendre ce mois de février, sinon on aura dépassé les 60 jours et puis on risque de connaître carrément une année blanche.
Oui, donc je disais que notre loi, la loi 14004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, en son article 84, exige 180 jours de cours minimum. C'est-à-dire en cas de calamité, en cas de pandémie, comme c'est le cas aujourd'hui, en cas d'une catastrophe, ou encore en cas d'aléa politique. Eh bien, en cas de toutes ces choses, eh bien, le minimum acceptable, c'est 180 jours de cours pour pouvoir valider l'année. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez les 30 jours de grève que le système éducatif congolais a connu, vous prenez les 30 jours de neutralisation des enseignements depuis le 5 janvier, eh bien, ça nous fait 60 jours. Et si nous faisons une petite soustraction avec les 222 jours de cours, eh bien, nous allons tomber à 160 jours de cours, et donc nous n'aurons pas atteint les 180 jours de cours. Ça veut dire que si le calendrier ne sera pas réaménagé, comme c'est toujours le cas, vous avez vu l'année passée, on n'a pas réussi à récupérer les 50 jours de cours qu'on n'avait pas donné aux enfants. Et donc, si nous restons là, eh bien, il ne va nous rester que 160 jours de cours, ça ne pourra pas permettre que l'année puisse être validée. Du point de vue technique, ça sera très difficile de pouvoir donner les enseignements, donner les évaluations et procéder à classifier les élèves par rapport à aux efforts qu'ils ont fournis. Donc nous sommes en train de courir de véritables risques. Il faut absolument que le gouvernement se mette en place et qu'il puisse rapidement décider de la réouverture des écoles et aussi bien des universités. Bien. Parce que vous ne pouvez pas, c'est une chaîne. On ne peut pas prendre les écoles primaires, secondaires et puis laisser l'université. Parce qu'après le cycle primaire et secondaire, mais l'élève doit continuer le parcours. Donc voilà les difficultés auxquelles on est confronté. Mmh. Mais je pourrais revenir sur les conséquences.
Bien, un instant, ça me paraît important. Un instant, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Le temps d'accueillir un auditeur, René Gloire de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, René.
Oui, tout d'abord, je condamne la gestion de notre gouvernement dans cette affaire. Parce que tout d'abord, il y a certaines églises qui ne respectent pas les gestes barrières. Il y a des marchés qui sont ouverts, des boîtes de nuit, de bars. Alors comment comprendre qu'on parvienne à fermer les écoles alors que toutes ces institutions-là, il y a une grande masse de la population qui circule librement sans respecter tous ces gestes barrières. Alors, concernant aussi les enseignants des écoles privées, particulièrement nous, c'est vraiment déplorable. Nous crèvons, nous n'avons pas de recours, de remède parce que nous dépendons entièrement du fonctionnement de l'école. Donc, vous-même, vous savez comment les écoles privées fonctionnent. Alors, pour les enseignants qui travaillent dans des écoles publiques, cela n'a rien à voir dans tout ça, parce qu'à la fin du mois, ils reçoivent leur rémunération comme il le faut. Mais nous qui travaillons dans des écoles privées, c'est un peu catastrophique. Moi, je voudrais que les autorités compétentes puissent revoir encore cette décision-là pour pouvoir satisfaire au moins tout le monde.
Merci. Serge Bondedi.
Merci beaucoup. Si je peux faire un petit comeback sur les dangers, c'est que je tenais à ajouter, vous savez, le fait que les enfants passent beaucoup plus de temps à la maison plutôt qu'à l'école, ils sont aussi exposés à plusieurs dangers. Je crois que Madame de l'UNICEF l'a évoqué. Ici, moi, je prends beaucoup plus les aspects sur... vous voyez même dans nos villes, dans nos centres urbains, il y a une nette augmentation de violences juvéniles parce que les enfants sont beaucoup utilisés pris dans ces mouvements de violences juvéniles qu'on appelle communément Kuluna et consorts. Mais également un grand danger auquel les enfants sont exposés, dont les gens ne tiennent pas ou n'en parlent pas souvent. Ils passent maintenant beaucoup de temps devant le média, que ce soit le média social via l'Internet ou le média traditionnel. Et en passant beaucoup de temps face aux médias, ils sont exposés à des principaux dangers, notamment le plus principal, il y a le cyberharcèlement, il y a le cyberprédateur, il y a les arnaqueurs, ils sont exposés ils sont même utilisés ou influencés à publier certaines informations à caractère privé parce que les enfants ne maîtrisent pas le limite qu'il y a dans les secteurs de l'information, donc le limite social. Il y a également beaucoup de problèmes, notamment de tomber dans le piège des arnaqueurs ici à Kinshasa avec ces vagues des escrocs et consorts. Donc les conséquences sont vraiment néfastes. Donc Il est temps d'agir, de trouver de mesures alternatives, palliatives, pour que l'enfant accède convenablement à son droit qui est celui de l'éducation. J'ai écouté la question de notre auditeur. Effectivement, oui. C'est un problème réel.
Il est enseignant dans une école privée.
Dans une école privée, c'est un problème réel. Je crois que même lorsque nous avons réalisé avec vous l'émission dans le cas d'impact de la privatisation de l'éducation, parce que les établissements d'enseignement privé fonctionnent comme des boutiques. C'est-à-dire que le promoteur paye les enseignants sur base des recettes réalisées. Et maintenant que les recettes ne sont pas réalisées parce que les enfants sont à la maison, les enseignants ne savent plus, les enseignants fonctionnant dans les établissements privés ne savent plus survivre. C'est un problème réel qui touche au social des enseignants, mais au-delà même des enseignants œuvrant dans les écoles privées, même ceux du public souffrent aussi. Mais il y a aussi un point important à relever. Vous savez, à Kinshasa, nous on a essayé de faire un tour dans différentes écoles. Nous avons remarqué que les enfants de classe terminale, donc de 4e année humanité, hier 6e année secondaire, se rendent à l'école. avec la tenue de ville, la tenue de la maison. Mais ces enfants sont exposés à des risques parce que dès lors que les enfants sont à l'école en tenue de riz, ils sont confondus à tout le monde. Et après l'école,
Serge, vous enfants... voulez dire qu'il y a des écoles aujourd'hui qui font ça, qui font venir les enfants en tenue de...
Oui, je vous dis, circuler à Kinshasa, en tout cas, la majorité d'écoles font venir les élèves de 6e année secondaire ou 4e année humanité en tenue de ville. Le risque est que, après les séances des cours, d'abord, il y a des agents de sécurité qui profitent de cela pour arnaquer davantage les écoles, parce que quand on vous arrête, il faut payer des amendes. Maintenant, ça constitue un réseau d'harcèlement et de business entre les agents de sécurité et les écoles qui demandent aussi aux parents de payer parce que les enfants suivent des cours. Deuxièmement, lesquels enfants, en rentrant à la maison, puisqu'ils sont habillés en tenue de ville, peuvent accéder dans des débits de boissons, sont exposés à des cas de violences sexuelles parce qu'ils ne sont pas en uniforme bleu-blanc pour être identifiés et épargnés des différents dangers. Voilà un peu le tableau de la situation qui prévaut actuellement. On peut comprendre que les enfants sont souciés d'apprendre, c'est ce qui est un besoin le plus légitime. Et donc il faut que le gouvernement prenne des mesures vraiment de manière générale pour encadrer, donc pour éviter tout ce qu'il y a comme risque auquel les enfants sont exposés.
Et comment votre organisation IMAE compte mener le plaidoyer pour la reprise des cours?
Oui, le plaidoyer, d'abord nous avons fait remarquer, après de multiples sorties médiatiques du ministre, nous avons d'abord fait remarquer qu'il y a un problème de forme qu'il faut respecter parce que la personne qui avait pris la décision, c'était le chef de l'État. Donc on a trouvé un peu absurde que... par respect ou par observance du principe de parallélisme des formes, que ce soit le ministre qui donne la vie contraire. Nous avons aussi compris parce que c'est le gouvernement qui organise la vie de la société. Alors, nous, à notre niveau, il y avait des informations qu'on avait eues qui faisaient l'état de la première quinzaine du mois de février, mais actuellement, nous avons appris qu'à la première quinzaine du mois de mars, ça serait la réouverture. Mais en tout cas, dépasser le mois de mars, on sera obligé de passer à des actions de protestation en public parce que les enfants doivent accéder au présentiel dans des écoles pour bénéficier parce que les conséquences sont dramatiques si on continue à garder les enfants à la maison. Mais entre-temps, nous avons aussi
Serge, vous dites que d'où vous tenez cette information que d'ici le 15 mars, les cours vont reprendre.
C'est-à-dire que puisque nous faisons un travail de monitoring et de coupage des informations, nous avons toujours des entrevues auprès des autorités à des différentes échelles de responsabilités et c'est dans ce travail qu'on peut qualifier en guillemets d'informel, que des projections étaient pour le mois de février dans l'hypothèse où le plateau, donc la situation épidémiologique, serait maîtrisée avec un plateau consolidé. Mais maintenant, selon les dernières informations, cette observation va aller jusqu'à la fin du mois de février si le plateau se consolide, c'est à ce moment-là qu'à la première quinzaine du mois de mars que les écoles seront réouvertes. Mais laissez-moi aussi m'interroger à haute voix parce que il semblerait que donc on se pose des questions aussi si la situation financière de la gestion de la gratuité a aussi une influence dans cette fermeture d'écoles. Donc, il sera important pour le gouvernement de continuer avec la communication pour ne pas laisser la place aux spéculations parce que dans le milieu social, les gens continuent de plus en plus à être convaincus que parmi les raisons qui fondent cette volonté ferme du gouvernement, c'est aussi des difficultés financières pour la tenabilité de la gratuité, avec notamment le paiement des enseignants nouvelles unités.
Bien, Serge Bondé dit coordonnateur de la campagne école Ezan Mbongote et de l'ASBEL IMAE. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup.
Au Capi Service, nous parlons aujourd'hui de la reprise des cours. Quand est-ce que les enfants vont reprendre le chemin de l'école? Vous avez des questions et préoccupations? Appelez au 081 890 63 94.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité. Sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Identité culturelle, c'est tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Bien, Esaïe, vous êtes à Kananga. Bonjour, et quelle est votre question par rapport à la reprise des cours?
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à l'invité, pourquoi pas les auditeurs de la fréquence de la paix. Je n'ai pas une question, mais j'ai juste une contribution par rapport à ce sujet du jour. Quant à moi, messieurs les journalistes, laisse-moi vous dire que c'est comme si ici au Kasaï Central, les mesures prises par les chefs, les autorités ne sont pas respectées. Pourquoi je dis cela? Chaque jour ici, c'est comme si les autorités qui dirigent notre province ne sont pas alertées à ça. Les enfants aillent à l'école comme il faut, tant que cette mesure est là pour sauver leur vie. Quant à moi, j'aurais préféré qu'on puisse même autoriser les enfants des sixièmes primaires et sixièmes des humanités afin qu'ils achèvent même cette année. Les autres promotions ici puissent attendre jusqu'au nouvel ordre. Parce que c'est là qui étudie chaque jour ici. J'ai en moi 5 à 6 élèves qui viennent de sortir au cours. C'est un constat que nous avons fait, comme nous les journalistes, nous avons fait ce constat. Nous avons trouvé que sur 100% au Kasaï Central, c'est 90 à 80 que les enfants se donnent au cours pour étudier. Même les préfets autorisent cela, les enfants qui partent.
Voilà, donc il y a des écoles qui ont déjà repris les cours en cachette. Voilà, c'est des choses qui se passent. Il y a également Serge Bondé dit qu'il a constaté les enfants vont à l'école sans les uniformes. Ça se passe dans la clandestinité. Jean Bosco Pounin.
Oui, malheureusement, je crois que c'est une situation à déplorer parce que tout le monde doit suivre les directives du gouvernement. Et voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une reprise rapide. Je voulais réagir par rapport à la situation financière. Je crois que jusqu'à ce jour, en tout cas, les enseignants touchent régulièrement leur salaire et les écoles touchent régulièrement les frais de fonctionnement. À ce point de vue-là, nous ne pouvons pas craindre qu'il y ait rupture. Mais nous avons beaucoup plus de craintes au niveau du leadership de l'enseignement. Vous savez que toutes les autorités de l'enseignement, de l'EPST, sont impliquées dans des scandales financiers et des recrutements irréguliers. Donc ça aussi, ça contribue pour que les écoles ne puissent pas rapidement reprendre avant que nous n'ayons un nouveau gouvernement. Voilà pourquoi ça presse. Mais on est revenu ici sur l'oisiveté. Les élèves sont tombés dans l'oisiveté. Mais l'une des grandes conséquences, c'est le taux d'abandon scolaire qui va à coup sûr augmenter de façon significative. Parce que si les élèves passent trop de temps, l'année passée c'était plus de 4 mois, cette année je crois qu'on va franchir 3 mois probablement, eh bien si les élèves restent trop, même à la réouverture des classes, il y a des élèves qui ne répondront plus à l'appel, simplement parce qu'ils seront soit démotivés, soit pour les filles, elles seront simplement disqualifiées. Il y en a qui deviendront mères, Donc il y a des conséquences fâcheuses qui peuvent entraîner les élèves à la dérive. Et donc il faut absolument que nous tous nous puissions travailler pour que les écoles reprennent. Mmh. Et nous ne pouvons pas accepter que ces écoles qui organisent, qui appellent les élèves en tenue civile, en tenue de ville, pour qu'ils aillent à l'école, moyennant quelque chose d'ailleurs, nous avons déjà fait les points au niveau du Sénécat. Je crois que ces promoteurs d'écoles doivent également être découragés. Il y a quelqu'un qui est revenu sur les écoles privées, un des camarades qui est dans les écoles privées,
oui.
C'est également une véritable tragédie, parce que il faut comprendre que les promoteurs d'écoles ne veulent pas absolument, même s'ils ont perçu des fonds, mais ils ne libèrent pas, étant donné que les enseignants ne sont pas à l'école. Mais il n'y a aucune mesure étatique qui est prise en leur faveur. Nous pensons que tout ça, ça pose véritablement des problèmes. Et donc, l'école fait quoi à l'élève? L'école donne la formation intégrale à l'élève. Vous entendez, la formation intellectuelle, il y a la formation morale, la formation civique, la formation religieuse et la formation physique. Voilà les rôles que l'école joue au niveau de l'élève. Mais aujourd'hui, l'élève est privé de toutes ces formations. Prenez par exemple la formation physique. Eh bien, l'enfant passe, je dirais, 6 ans primaire, 6 ans secondaire, 3 ans de l'enseignement préscolaire. Près de 18 ans, eh bien, près de 15 ans, l'enfant le passe à l'école. Il faut prendre également l'université. Mais un enfant qui ne fait plus, qui ne pratique plus le sport, qu'il pratique de manière contraignante à l'école, eh bien, ça va poser de véritables problèmes.
D'ailleurs, à la cité, beaucoup d'enfants ont pris du poids parce qu'ils restent tout devant la télé tous les jours.
Hein, les enfants ne font que manger, boire, dormir, ce rythme-là. c'est un rythme qui va véritablement déranger la santé de nos enfants.
D'accord,
et donc, il faut absolument que nous ayons un nouveau gouvernement et que l'État puisse reprendre les choses en main afin que les élèves reprennent les enseignements.
Bien, on va accueillir Safari depuis Gabarrière et Moussala, Jean-Pierre Moussala de Gbadolité. Safari, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, je disais ceci, M. Jourdi. En fait, dans cette reprise des activités scolaires, je ne sais pas pourquoi... c'est une question que je pose. Pourquoi est-ce que la prise de décision pour la reprise des activités scolaires ne fait pas l'unanimité chez les ministres, disons ministre de l'FST et ministre de la Santé? Car si ces deux personnages disaient le même mot, parlaient une même chose, on ne prendrait pas aujourd'hui la décision de la reprise, les jours J, qu'on puisse dire que voilà, la date est reportée pour une date ultérieure. Donc, cela fait un mal au cœur, les enfants veulent rentrer. Alors, j'ai dit, pourquoi est-ce que ces deux ministres ne parlent pas même langage? Voilà ma question et bonne journée.
Merci. Jean-Pierre Moussala de Gbado, bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, monsieur José, bonjour, la radio Capier. Je vais contribuer. Donc, les autorités de notre pays ne sont pas sincères et ils ne sont pas véridiques. Ils se cachent derrière la COVID et tout en disant que non, le pays est à COVID-19. Or, c'est les bonnes des moyens financiers. Donc, la Banque mondiale a refusé de libérer l'argent, raison pour laquelle il n'y a pas moyen de payer les personnels, de payer les enseignants. Alors, cette République veut enterrer la vie de nos enfants, parce que les ministres, les présidents de la République, et ainsi de suite, de la ces enfants ne sont pas ici à la République démocratique du Congo, ils sont dans des pays étrangers. Alors nous qui sommes ici à la République démocratique du Congo, nous et nos enfants souffrent. Donc, je vais demander si réellement les ministres de l'EPST disent que non, il y a COVID-19, il n'y a pas moyen pour ouvrir les écoles. Alors nous avons déjà payé la première tranche de nos frais. Alors, je vais poser comme une question. Est-ce que c'est réellement le problème de la COVID ou c'est le problème de l'argent? Je dis et je vous remercie.
Bien, merci. Rémi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je dis bonjour à tous les auditeurs. Bon, je pense que c'est déjà balayé, hein, mais le comité coronavirus au Congo, c'est ce comité qui est en train d'empêcher le retour des enfants à l'école. Aujourd'hui, vous avez le 5 janvier, le ministre de l'Enseignement, sur les antennes, bien sûr, toujours de Radio Capi, il a notre chaîne de Kinshasa qui nous écoute. Il a annoncé, il a dit qu'il y aurait du 5, mais il a été intimidé par le ministre. Le problème aujourd'hui est connu par tout le monde.
Oui, Rémi, vous sortez entrecoupé, on vous entend pas très bien, mais au moins on a retenu, vous avez dit que ce n'est pas le problème du ministère, c'est plutôt le comité multisectoriel des luttes contre Covid-19 qui bloque. Voilà, Jean Bosco Pouna.
Oui, il faut dire que tout à l'heure, il y a l'auditeur qui est revenu sur le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, qui ne parlerait pas le même langage.
Oui.
Mais là, il faut également dire que ça ne dépend pas simplement du ministre de la Santé et du ministre de l'Éducation. Ça dépend également de tous les autres partenaires qui accompagnent notre système d'enseignement. Mais ça dépend également du président de la République. Et donc, c'est toutes ces autorités mises ensemble qui doivent trouver le modus vivendi pour que nous puissions sortir de cette crise de l'école. En fait, l'école congolaise est en crise. Alors, la question relative aux finances, c'est vrai que les communs des mortels, il y a une certaine opinion qui croirait que ce sont les finances qui manquent aujourd'hui. Nous avons milité en faveur de la gratuité de l'enseignement. Nous ne pouvons pas donner un espace de manœuvre au gouvernement. Le gouvernement a l'obligation de pouvoir porter sa gratuité et les moyens sont disponibles. Les moyens que nous cherchons aujourd'hui, ce sont les moyens pour améliorer les salaires des enseignants. Mais le salaire qui est payé, il est disponible et chaque mois, chaque enseignant touche son salaire et les écoles sont subsidiées en termes de frais de fonctionnement. Je crois que de ce point de vue, les problèmes ne se posent pas tellement. Donc, l'argent de la Banque mondiale, c'est le gouvernement de la République qui devrait d'abord décaisser et le gouvernement a fait son travail. Maintenant, la Banque mondiale, nous pensons qu'elle ne va pas partir. Nous devrons refaire la confiance avec cette grande institution financière pour continuer le travail de la gratuité. Parce que n'oubliez pas qu'on avait annoncé 800 millions de dollars et pour prendre en charge la gratuité de l'enseignement. Donc, on ne peut pas craindre les moyens, à notre point de vue, sont là par rapport au salaire qui est payé aujourd'hui. L'autre aspect, ça sera l'amélioration de ces salaires. C'est un autre aspect, mais il faut absolument que les écoles reprennent à fonctionner
d'abord
pour donner de la vitalité à notre jeunesse, donner de la vitalité à notre société.
Bien, on va terminer avec la question de Maître Moupila de Guémena. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, aujourd'hui, je suis là à Guémena. Bonjour à tous les professeurs des universités congolaises et aussi aux enseignants de l'enseignement supérieur universitaire.
Quelle est votre question? Allez-y rapidement, passez directement à la question.
Il n'y a pas de question à poser, il y a des inquiétudes.
Lesquelles?
Parce que nous sommes devant un cas de force majeure. Lequel cas dont nos enfants, les élèves, sont victimes de cas de force majeure liés à la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer, après j'étais à Zongo, j'étais devant un parent. Le parent est venu devant l'enseignant, obligeant l'enseignant de venir récupérer son enfant pour l'amener à l'école parce que l'enfant lui dérange et les élèves le dérangent à la maison. Vous pouvez imaginer que non, par exemple, mon enfant, le 8 mars, il a déjà 3 ans. Il doit regagner l'école. Mais j'ai attendu l'invité qui est au plateau. Il dit que non, au mois de mars, que paraît-il, les enfants vont regagner les cours. Mais ça pose un problème sérieux, je dis. Il y a maintenant exode rural, j'étais à Zongo, mais les élèves de Zongo quittent maintenant Zongo pour aller étudier à Bangui. Maintenant, si jamais tous ces élèves-là quittent Zongo pour aller étudier à Bangui en Centrafrique, quel sera même le sort des enseignants, comme dit l'invité qui est au plateau? Le problème qui est là, que non, la coordination de Covid-19 puisse s'empêcher. Aussi, inviter tous les enseignants et les dirigeants de voir comment faire, parce qu'il y a des gestes barrières. On peut dire que non, on impose que toute école, on met d'abord un lavage à main, les masques, ainsi de suite, pour sauver les élèves. Sinon, l'âge va s'avancer et ça posera un problème. Toutes ces questions-là, l'obligation est que la coordination de Covid-19 puisse se pencher et puis sauver les enfants. Sinon,
bien,
en 6e primaire, un élève doit terminer à 12 ans. Aux humanités 18 ans et à l'université au plus tard 22 ans.
D'accord.
Mais quand un élève termine au plus tard, ça pose un problème.
Ça pose un problème.
Ça dépend de la coordination.
D'accord, merci.
L'âge.
Merci Maître Mopila de Guémena. Jean Bosco Pouna, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la reprise des cours?
C'est que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il y a imminence pour que les écoles puissent recommencer les apprentissages qui ont été interrompus. Tous les partenaires sont véritablement d'accord. Il reste le partenaire principal qui est l'organisateur, le pouvoir organisateur de l'enseignement, qui doit mettre le moyen qu'il faut, et qui doit prendre à bras le corps cette question avec les comités multisectoriels à la riposte pour que finalement les écoles reprennent. Parce que sinon, ça sera un abrutissement programmé de notre jeunesse. Nous pensons que ça sera vraiment contre-productif pour notre pays.
Bien. Jean Bosco Pouna, secrétaire général du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Nous vous disons merci et excellente journée.
Merci beaucoup, Jody.